les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Peut-être vaut-il mieux rester dans la catégorie des amateurs, disait Jacques de Lacretelle à son interlocutrice. Il évoquait sa propre création littéraire, romanesque ou autre, le milieu de la NRF, son amitié avec Marcel Proust, puis Le Figaro de Pierre Brisson, les œuvres où l'auteur emploie le « je » avec une sincérité authentique, et semblait ne pas priser un certain style littéraire, genre Zazie dans le métro. Permanence de l'Académie, Jacques de Lacretelle, première diffusion sur France Culture le 15 mars 1966.
L'Office de radiodiffusion en télévision française vous prie de bien vouloir écouter une émission de Francine Lelier sur l'Académie française. Permanence de l'Académie. Aujourd'hui, Jacques de Lacretelle. Réalisation, Raoul Auclair.
Vous regardez le jardin. Assez inattendu, n'est-ce pas, cette demeure enfouie sous la verdure, mais d'où l'on aperçoit tout le mouvement de la rue et l'Arc de Triomphe au loin. C'est une maison du vieux Passy.
C'est le Passy où Balzac allait se réfugier loin du bruit.
Loin du bruit et de ses créanciers. Elle a d'ailleurs, elle aussi, un passé littéraire, cette maison. Quand je me suis installé ici, il y a une trentaine d'années, je crois, et que j'ai donné par hasard mon adresse à Gide, croiriez-vous qu'il a poussé une exclamation de surprise ? « Ruvineuse, m'a-t-il dit, mais c'est la maison que Pierre-Louis a habitée autrefois et où j'allais si souvent le voir. C'est là que se sont élaborés tous nos rêves de jeunesse. » Et c'est exact, Pierre-Louis, jeune étudiant, a habité au premier étage chez son frère l'ambassadeur Georges-Louis. Ensuite, André Chaumex a vécu quelques années dans cette maison. Et Marcel Prévost y a passé 40 ans de sa vie. Tenez, c'est peut-être dans la pièce où nous sommes qu'ont été conçus, si j'ose dire, les demi-vierges. Que de plaques à poser, ne trouvez-vous pas ? Mais vous allez me dire que vous n'êtes pas venu pour entendre ici un historique du vieux Paris. De quoi voulez-vous que je vous parle pour commencer ?
Eh bien, je voudrais que vous me parliez de ces portraits que je vois sur les murs.
Ce sont des gravures de Boilly qui a fait tout l'Institut sous la Restauration. La première est le portrait de mon arrière-grand-père, qui a écrit des ouvrages d'histoire et a laissé d'intéressants souvenirs sur la Révolution. Taine s'y est reporté souvent dans les origines de la France contemporaine. À côté de lui, l'autre gravure est son frère aîné, qui débuta au barreau de Metz et a laissé des essais de politique et de morale. Lui aussi était de l'Académie, mais pas du tout vieille perruque, d'idées plus avancées même. C'était un familier de Madame de Staël et surtout de Benjamin Constant, avec lequel il a fondé la Minerve française, journal d'opposition qui a eu son heure de gloire sous la Restauration. Et puis, je pourrais aussi vous parler de mon grand-père, voisin de campagne de Lamartine en Bourgogne, sur lequel il a écrit un charmant livre. Poète aussi, mais auteur de romans, je dois l'avouer, fort oublié aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas omettre mon frère aîné, dont vous connaissez peut-être les ouvrages sur la reine Hortense, sur Madame de Staël et sur la vie privée de Racine. Mais arrêtons là, si vous le voulez, notre tournée dans la galerie des ancêtres. Nous ne l'avons faite que pour vous montrer que les Lacretelle ont de l'encre dans les veines.
Il n'est pas étonnant que dans ces conditions, vous ayez eu très tôt le goût des lettres et l'ambition d'écrire, et non seulement l'ambition d'écrire, mais le pouvoir de créer des personnages de romans.
Eh bien, oui, mais tout cela m'est venu assez tard. Ce que je dois aux lectures de ma jeunesse est immense. Prendre un livre dans la bibliothèque était pour moi un moment de joie et de fièvre, Qu'allais-je découvrir? Quelles amitiés nouvelles? Quels paysages inconnus? C'était fixer mes rêves et donner une figure à mes sylphides. Et puis, être libre de son choix, pouvoir juger en secret et en toute indépendance, voilà la culture que l'on doit préférer à l'enseignement scolaire. On vante aujourd'hui pour l'enseignement et la culture de l'esprit des méthodes audiovisuelles. On regarde la télé, on feuillette un digest, on écoute la radio. Mais c'est le tête-à-tête avec un beau livre qui sème la bonne graine dans notre cerveau.
Et ces beaux livres, ces premiers livres, ces livres clés, quels furent-ils pour vous?
Vous me demandez de remonter bien loin. Mais au fond, mes prédilections n'ont pas changé. J'ai toujours été attiré par le récit intime, les confessions, le roman où l'auteur emploie le « je » avec une sincérité authentique. C'était là que je découvrais une matière précieuse, bien plus rare que l'invention ou l'imagination pure. Oh, naturellement, j'ai été passionné à 15 ans par Alexandre Dumas et sa grande galopade à travers l'histoire. Mais les confessions de Jean-Jacques, le journal d'Henri Brulard de Stendhal, le journal d'Amiel et des romans presque autobiographiques comme Adolphe, comme Dominique de Fromentin, voilà des œuvres qui m'ont marqué et m'ont donné obscurément l'ambition d'écrire. Et puis, à 25 ans, l'apparition de Proust, la découverte de Du côté de chez Swann. Cette nouvelle comédie humaine reconstituée à l'aide de la mémoire et de la sensibilité, où l'auteur créait des types tout en travaillant sa patte, si je puis dire, voilà qui me comblait.
Connaissiez-vous déjà bien Marcel Proust?
C'est un de mes amis qui m'a offert de me conduire chez lui. Éperdu d'admiration, j'ai accepté aussitôt. Impatient de le faire parler, impatient d'écouter ses conseils. D'ailleurs, j'ai raconté ses entretiens dans un livre, Les Maîtres et les Amis, et c'est là que j'ai reproduit une longue dédicace utile pour connaître les modèles de Swann. Proust m'y révèle notamment que la petite phrase de la sonate de Vinteuil, que vous connaissez bien, est un étrange amalgame de ses réminiscences musicales. Ces soirées au chevet de Proust, je m'en souviens bien. Proust, ce malade hypersensible, recevait, vous le savez, la nuit, et couché dans une chambre presque obscure, toute tapissée de liège, fermée au courant d'air et interdite aux parfums trop violents, au tabac, qui redoublait les crises d'asthme dont il est mort. On lui reproche d'avoir été snob et mondain. Ah, je vous assure qu'il ne l'était plus guère à l'époque où je l'ai connu. Il avait récolté son miel. Il ne songeait qu'à terminer son œuvre avant de mourir. Ce qui l'intéressait dans mes visites, c'était de s'enquérir sur la génération qui arrivait aux lettres. Morand, Cocteau venaient aussi le voir. Nulle sécheresse, nul égocentrisme dans ses propos. Je crois que nous étions ses moments de récréation, car il avait de l'humour, de la fantaisie et même de la cocasserie dans sa conversation. Et puis, quand en 1920, j'ai publié mon premier roman, La vie inquiète de Jean Hermelin, il m'a témoigné une grande bienveillance. Comme il avait eu le prix Goncourt l'année précédente pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il a fait des démarches auprès de tout le jury Goncourt. Et cela tout en m'avouant loyalement qu'à son avis, c'était Giraudoux qui méritait d'être couronné.
Et qui a eu le prix?
Eh bien, ni Giraudoux ni moi. Un assez bon roman sur les mœurs campagnardes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Naine d'Ernest Perrochon.
La vie inquiète de Jean Hermelin a eu tout de suite une excellente critique, vous ne le rappelez pas. J'ai retrouvé un article de Kemp, un article...
d'Henri de Régnier, je crois.
Oui, dans le Figaro, oui. Un article dans le Gaulois.
Oui, d'Abel Hermant.
Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce premier roman?
Vous me demandez une autocritique, ce qui est toujours très délicat, très difficile. Mais je vais vous répondre tout de même. À mes yeux, c'est le type du premier roman. Très gauche, seulement avec des passages sensibles où bien des lecteurs peuvent se reconnaître.
Ensuite est venu Silbermann, qui a été le grand succès pour vous.
Silbermann, oui, qui n'a pas eu davantage le prix Goncourt. Ce mat de cocagne pour tous les jeunes écrivains.
Qui n'a pas eu le prix Goncourt, mais qui a eu le prix féminin en 1922.
En 1922, oui. Eh bien, c'est un livre dont le sujet m'a valu, et me vaut encore, ça je dois le dire, des lettres passionnées. Cette persécution contre un jeune juif dont un camarade protestant prend courageusement la défense, cela pourrait se voir encore de nos jours.
Était-ce des souvenirs personnels, des épisodes vraiment vécus ?
Non, ni l'un ni l'autre. Dites plutôt « vérité transposée ». Dans ma jeunesse, au lycée Janson, au lendemain de l'affaire Dreyfus, j'avais côtoyé bien des Silbermann et observé leurs adversaires. Mais si le narrateur du livre emploie le « je ne suis pas protestant et mon père n'était pas magistrat. Mettons, si vous voulez, que j'ai greffé l'imagination sur la mémoire. Silbermann a été composé avec 5 ou 6 modèles. C'est pourquoi beaucoup de personnes, d'ailleurs, ont pu me dire « moi aussi, j'ai connu un Silbermann ». Voyez-vous, pour réussir à créer un type, il ne faut pas copier servilement un modèle, il ne faut pas avoir un seul personnage. Mais il faut donner à cet homme que l'on met au monde une autre dimension qui lui fournira peut-être une chance de survivre.
Est-ce que c'est à la publication de Silbermann que vous êtes entré dans le groupe de la Nouvelle Revue Française ?
Ah oui, c'est à cette époque, un peu avant même. Grâce à Proust, qui avec sa gentillesse habituelle m'avait recommandé à Jacques Rivière. Et je veux vous en parler parce que, pour tous ceux qui l'ont approché, il y avait là une telle ouverture d'esprit, une telle curiosité de recherche de la sincérité, un tel goût de la vérité, qu'il a été pour nous un grand patron. Il avait tous les dons qui font un grand directeur de revue. La NRF de cette époque n'avait aucun rapport avec celle qu'on lit aujourd'hui, on peut bien le dire, qui est faite de textes dogmatiques ou farfelus, de notes sommaires ou négligentes. Quand Rivière confiait à l'un de ses collaborateurs un livre pour qu'il en fît une note, il fallait qu'il y eût vraiment entre l'un et l'autre une affinité de jugement, et non une camaraderie de quartier. Et voyez, voyez quelle diversité dans son choix. Mauriac, Mauroy, Monterland, Morand,
Martin Dugard,
n'est-ce pas ? Claudel, Égide, bien entendu. Tels sont les noms qui voisinaient sur la couverture. Et pour les relier ou les opposer entre eux, le solide article de Thibaudet, ce maître critique. Croyez-moi, ce fut une grande époque pour les lettres.
Quelles étaient alors vos méthodes personnelles de travail ?
La solitude et la retraite. Il ne faut pas se couper du monde, mais le travail et surtout l'enfantement d'un livre exige un don total de soi, un recueillement, une entrée en cellule. Je choisissais un peu au hasard une petite ville de province et m'y installais au travail avec mes personnages et leur histoire. Du coup, je regardais la campagne et même toute la nature avec des yeux neufs. Et puis, la vie provinciale qui se déroulait au ralenti m'offrait un spectacle bien différent de la faune parisienne. Je puis vous le dire, c'est ainsi que j'ai écrit la Bonifa au cours d'escales successives à Beauvais, à Compiègne ou dans un petit village du Midi, suivant les épisodes du livre. Vie dure, je ne vous cache pas, toute vouée au travail, mais je ne la regrette pas. Ce sont de beaux souvenirs. Pour écrire Les Hauts Ponts, qui est l'histoire d'une famille provinciale, je me suis caché, oui, presque caché en Vendée, à Fontenay-le-Comte, où j'avais situé mon personnage. Au fond, voyez-vous, j'ai toujours été attiré par l'envers des beaux sentiments. J'ai mis en épigraphe à la Bonifa une maxime de La Rochefoucauld que je crois très vraie. Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons dans la composition des remèdes.
La maxime de La Rochefoucauld, que vous avez mise en épigraphe à la Bonifa, me fait penser que souvent dans votre œuvre, vous avez fait allusion à nos grands moralistes.
Eh bien, à mon avis, les moralistes français sont la lignée royale de notre littérature. Montaigne, le Pascal des pensées, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Joubert, voilà le chemin de Crète.
Je repense à votre œuvre romanesque qui est si diverse.
Pourtant, il me semble que dans mes premiers romans, j'ai été particulièrement attiré par des destinées incomprises, des êtres méconnus ou persécutés injustement. L'idée de l'incompréhension mutuelle des êtres m'a toujours frappé. Et il me semble que notre monde actuel nous en donne un parfait exemple. Ne me jugez pas pessimiste ni même épris de dolorisme. Je crois seulement que chacun de nous a un grain de folie et que c'est là peut-être ce qu'il y a de plus intéressant à observer pour un romancier. Ça ne diminue pas mon goût de la vie, ça ne m'empêche pas d'entrevoir et de chercher tout ce qu'il y a de magnifique à travers le monde. L'amour des voyages, la curiosité des pays inconnus, je crois que je l'éprouverai jusqu'à mon dernier souffle.
Vous avez du reste beaucoup voyagé.
Oui, oui, j'ai beaucoup voyagé, c'est une chaîne d'or dans mes souvenirs. Un jour, je me rappelle que Moravia, l'écrivain italien, m'a dit avec envie « Ah, vous avez de la chance, vous autres écrivains français. Avec des conférences, vous pouvez faire le tour du monde. » Et c'est vrai, grâce à l'Alliance française, dont je m'occupe un peu, et à beaucoup d'autres organisations, nous pouvons aller partout avec une conférence sous le bras. Tenez, il y a peu de pays que je ne connaisse pas. Si, la Chine. Je ne suis allé qu'à Hong Kong, qui est d'ailleurs le spectacle le plus beau et le plus curieux du monde.
Il y a la Grèce, où vous êtes retourné bien des fois, si l'on en juge par le livre que vous y avez consacré.
Ah oui, la Grèce, je crois bien que j'y ai fait une dizaine de voyages successifs. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Voyez-vous, ces temples érigés par une sorte de communion instinctive dans les sites naturels les plus beaux, cette architecture à la fois rigoureuse, logique et sensible, ce romantisme bridé et devenu classique, voilà qui correspond le mieux à mes théories esthétiques.
Parlez-moi un peu de vos deux derniers romans, Le Pour et le Contre et Deux cœurs simples.
Eh bien, dans les deux volumes de Le Pour et le Contre, j'ai voulu faire la somme de mon expérience professionnelle, décrire le cas d'un jeune homme qui vient aux lettres, un peu par hasard, grâce à ses goûts littéraires, sans déterminer clairement sa vocation et sans donner à ses actes et à sa vie une orientation tout intellectuelle. En bref, un amateur qui devient homme de lettres.
Ce passage de l'amateurisme au véritable métier d'homme de lettres m'a toujours intrigué.
Mais je comprends cela, parce que nous commençons par admirer, par aimer, mais nous restons à l'extérieur du mouvement, si je puis dire. Et puis un beau jour, nous voyons le monde avec d'autres yeux. Nous devenons des fonctionnaires littéraires, habiles à manier la plume et ne connaissant plus ou moins que tous les trucs du métier. Or, vous l'avouerai-je, je crois qu'il vaut mieux rester un peu dans la catégorie des amateurs. Il y a plus de spontanéité, plus d'ingénuité, plus de surprise chez eux. La lignée des grands amateurs, c'est celle de La Rochefoucauld, de Benjamin Constant, de Mérimée, de Gobineau. Écrivains mineurs, dira-t-on, si on les compare à La Bruyère, à Voltaire, à Chateaubriand, à Hugo, à Balzac. Oui, peut-être, mais ils ont une qualité que les autres ont perdue. L'amateur est celui dont la personnalité vivante ne sera jamais recouverte par le métier. Il restera, dans une certaine mesure, un flâneur, un débutant, un homme incertain de sa voix. Eh bien, dans Le Pour et le Contre, le personnage principal est de cette famille, et il raconte son expérience d'homme de lettres en la mêlant à sa vie. Tenez, s'il y a, par hasard, des écrivains qui m'écoutent en ce moment, je suis sûr qu'ils comprendront la différence entre ces deux états. Au début, nous avons admiré gratuitement. Nous nous sommes enthousiasmés sans but, dirais-je. Eh bien, c'est l'inspiration la plus pure. Puis, le métier étant venu, nous nous disons devant le même spectacle et les mêmes choses, « Voilà un bon sujet à traiter, voilà matière à un article qui aura du succès. » Or, c'est le premier état qui nous donne la vision la plus originale du monde. Le second ne fait qu'exploiter et produire.
Vous parliez tout à l'heure du milieu de la Nouvelle Revue française entre 1920 et 1930. Vous l'avez décrit, ce milieu, dans Le Pour et le Contre. Et on y a vu des clés. Vous n'y faites pas allusion.
Vous avez raison, des clés. On me les a même reprochées. On a cru reconnaître Gide, Rivière, Fargue, d'autres encore. J'admets que ce petit jeu de transposition m'est amusé. Mais ce que j'ai voulu surtout étudier de près, c'est ce dont nous parlions à l'instant même, ce passage de l'amateur à l'homme de lettres. Quant à Deux cœurs simples, c'est une étude sur des milieux sociaux différents et sur les conflits entre générations. Deux femmes, veuves et mères toutes deux, se lient d'une affection profonde et décident de vivre ensemble. Leurs enfants grandissent auprès d'elles, le fils de l'une épouse la fille de l'autre, mais ce couple se disloque bientôt et les deux mères, reprises par l'instinct, se séparent et entament une lutte terrible. Les années passent, le fils, un raté qui tombe peu à peu dans les drogues, ruine sa mère et se tue. La fille s'enfuit à l'étranger et, bien des années plus tard, les deux vieilles femmes, seules, abandonnées, démunies, retournent l'une vers l'autre et achèvent leur vie ensemble. Là encore, vous retrouverez peut-être le thème de l'incompréhension mutuelle des êtres.
Dans vos traductions aussi, vous avez souvent cherché de semblables personnages.
La traduction est un genre qui m'a beaucoup intéressé. Je sais assez bien l'anglais, je me sens beaucoup d'affinité avec les romanciers britanniques et, j'ouvre une parenthèse, bien peu avec les romanciers américains, avec leurs histoires de soulard et leur frénésie fabriquée. Aussi ai-je éprouvé une grande joie à faire connaître en France Mairé Webb, dont les romans Sarne et La Renarde ont obtenu de grands succès chez nous. Et j'ai aussi traduit avec ma femme le chef-d'œuvre d'Emily Brontë, Wuthering Heights, sous le titre de Haute Plainte.
Mais vous ne me parlez pas de votre carrière de journalisme.
Pour ma carrière de journalisme, je vous répondrai par un seul nom, Pierre Brisson. Il a été un grand directeur de journal et c'est lui qui m'y a attiré. Il aimait l'actualité, le mouvement, le combat, mais il voulait y introduire là aussi la littérature, faire de chaque écrivain un bon journaliste, observateur de son temps et de la vie politique, et de chaque journaliste, naturellement, un bon écrivain. À peine au Figaro, et même avant cela, quand il avait pris la suite des Annales, il a fait appel aux écrivains de son temps qui avaient débuté entre les deux guerres. Pendant l'occupation, ensuite, quand le Figaro était réfugié à Lyon, c'était le seul journal avec le littéraire où l'on pouvait tant bien que mal exprimer sa pensée. Rappelez-vous, Duhamel, Claudel, Gide, Valéry s'y sont exprimés. Et c'est à ce moment que j'ai été nommé administrateur. Enfin, à la mort de Pierre Brisson, il y a un an, j'ai trouvé au rond-point des Champs-Élysées cette équipe qu'il avait formée et instruite. Eh bien, je peux vous dire que c'est une joie de travailler parmi de tels compagnons. Après tout, tant pis pour les romans. Il est bien possible d'ailleurs que je n'en écrive plus. Et puis, ces romans ne seraient sans doute plus au goût du jour, ni dans le fond, ni dans la forme. Un roman, pour moi, doit être une biographie à laquelle on croit. On n'a pas besoin d'invoquer des noms d'autrefois, d'il y a un siècle, comme Balzac ou Flaubert. Il suffit de relire les romans presque contemporains de Colette ou ceux de Mauriac. Eh bien, aujourd'hui, on écrit des sketchs. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, du dernier prix Goncourt, l'adoration de Borel, mais c'est l'exception. Et surtout, pas de composition, pas d'art. Interdisez-vous d'analyser un caractère. Quant à la forme, vous le savez comme moi, c'est le style de Zazie dans le métro. Eh bien, ce style, je dois l'avouer, me fait dégueuler pour parler comme cette mignonne enfant.
Ce n'est pas évidemment un langage académique, mais en fait, cela me fournit une transition, même si elle est un peu brusque, pour vous demander de me parler de l'académie.
Oui, si vous voulez. Et puis, je peux vous dire que le mot n'est pas, en effet, dans le dernier dictionnaire. Oh, mais il sera peut-être introduit dans le prochain, je n'en sais rien. Les choses vont vite. Mais de l'académie, que puis-je vous dire? D'abord que je vais fêter en 1966 mes 30 ans de coupole. Pendant plusieurs années, j'ai été le Benjamin à l'académie, mais enfin, c'est un titre qu'on perd vite. C'est Abbé Lermand, dont nous parlions tout à l'heure, qui m'avait reçu. Abbé Lermand qui a tenu une belle place pendant des années dans notre vie littéraire, ce que l'on ne doit pas oublier malgré les malheurs survenus à la fin de sa carrière. Que vous dirais-je encore de l'Académie, de mes rapports avec l'Académie? Eh bien, c'est que je suis un des plus assidus aux séances, quand mes voyages ne m'entraînent pas trop loin. Je puis vous assurer que je ne m'y ennuie pas du tout, car au fond, voyez-vous, il n'y a pas d'esprit de corps à l'Académie, ce que je déteste. Au contraire, il y a une grande variété de talents et de caractères. Dans la plupart des cénacles littéraires, Vous reconnaissez-le, tout le monde se ressemble, tout le monde emploie le même vocabulaire et obéit à la même consigne. On se singe l'un l'autre. Tandis qu'à l'Académie, c'est l'individualisme qui règne, enveloppé d'une courtoisie mutuelle. Tenez, je vais vous donner une bonne définition de l'Académie, c'est le conservatoire de l'individualisme. Et puis, nos grands prix sont en général bien décernés. Je n'en dirais pas autant des prix secondaires, peut-être. Mais là, nous sommes bien souvent liés par des conditions imposées par les donateurs. Une chose est préoccupante à l'heure actuelle dans le recrutement de l'Académie, puisque nous en parlons. C'est le divorce entre la littérature et nous. Il y a au moins 4 grands écrivains qui devraient être de l'Académie. Vous avez leur nom sur les lèvres, sans doute. C'est Malraux, Sartre, Aragon et Anouilh. Et aucun ne le peut ou ne le veut pour des raisons différentes. Malraux, parce qu'il a des fonctions officielles, Sartre, parce qu'il refuse tout, il a refusé le prix Nobel, Aragon, il a répondu « Oh non, ça vous gênerait et ça me gênerait aussi ». Et enfin, Anouilh, parce qu'il mène une vie solitaire. La mode est au refus. Pourquoi ? J'avoue ne pas le comprendre. Espère-t-on se grandir par cette fausse modestie ? Michaud vient de refuser un grand prix de littérature. Veut-on se distinguer en repoussant toute distinction ? Vraiment, ça, je ne comprends pas. Le cas de Malraux est à part, puisqu'il est actuellement ministre. Et, entre nous, nous espérons bien le décider un jour. Il y a un cinquième nom que tout le monde souhaiterait, vous le devinez, le général de Gaulle. Mais il est statutairement notre protecteur. Voilà l'obstacle. Je puis vous dire qu'en 1945, à la Libération, Duhamel, alors secrétaire perpétuel, était allé le trouver pour lui demander d'entrer à l'Académie, de faire acte, sinon de candidature, enfin d'accepter. Et la réponse a été qu'il ne voulait rien accepter, jugeant que sa tâche n'était pas terminée. En quoi il avait raison. Mais je crois, je sais, je suis sûr même qu'il s'intéresse à l'Académie.
Quels sont maintenant vos projets littéraires ?
Ah, ne me parlez pas de ça. Je n'aime pas parler de mes projets, ça me porte malheur, c'est-à-dire qu'ils s'échappent. Tenez, je préfère vous dire un mot de mes derniers nés. Les 2 volumes, La galerie des amants et L'amour sur la place, qui sont une anthologie de la correspondance amoureuse à travers les âges et dans tous les pays. Avant le 19e, le style est souvent direct, ardent, mais il reste littéraire. À partir de Madame de Staël, tout change. Il semble qu'alors la correspondance amoureuse soit devenue un moyen d'atteindre à la connaissance physique des êtres. Derrière les mots plus fougueux, il y a une curiosité plus chercheuse. La lettre d'amour cesse d'être une dissertation sentimentale, elle fait partie d'un roman réaliste. Ainsi, vous le voyez, j'ai commencé cet exposé de ma carrière littéraire que vous avez bien voulu me demander en vous parlant de mon premier roman, Jean Hermelin, qui est le récit d'une adolescence inquiète. Et voilà que 45 ans plus tard, je publie une anthologie de lettres d'amour. Eh bien, il y a peut-être un lien entre ces 2 jalons. On pourrait relever une certaine continuité. Ce serait, si vous voulez, la prédilection dans toute mon œuvre de l'analyse sentimentale. Le désir de connaître la vie secrète des êtres, de les surprendre au moment où un cri sincère leur échappe. J'ai écrit un recueil de nouvelles que j'ai intitulé « L'âme cachée ». Voilà l'étiquette qui pourrait s'appliquer à tous mes livres. C'est du moins celle que j'ambitionne et qui me ferait le plus de plaisir. Enfin, ajoutez à cela la volonté de s'exprimer clairement et avec un art limpide, ce que j'ai toujours cherché. La prose française est faite pour traverser les nuées et non pour s'y enfoncer. Je me suis efforcé dans chacun de mes livres de me soumettre à cette vocation.
L'Office de radiodiffusion en télévision française vient de vous présenter une émission de Francine Lelier sur l'Académie française. permanence de l'Académie.
Aujourd'hui, Jacques de la Cretelle. Assistant Paul Bram, réalisation Raoul Auclair.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 mars 1966. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.